fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Maë Burla.
Notre chronique, elle s'appuie sur la rencontre internationale qui se déroule tous les ans au mois de mai, ici à Lyon. Et on voudrait donner en fait à entendre ce qui s'y passe.
L'enjeu, c'était de proposer donc un autre format pour montrer les coulisses de nos réflexions et surtout de donner envie de lire nos productions écrites. Et du revu, et du bref, et du veille.
Passer par la radio, ça nous aide à faire connaître nos travaux.
Essayer d'explorer comment utiliser le sonore comme outil pédagogique.
Qu'il n'y a pas que la salle de classe comme espace d'apprentissage.
Et voilà, on voulait choisir des instants clés à partager à toutes et tous.
Et aller un petit peu plus loin aussi dans notre démarche de médiation scientifique.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il fait quoi, le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci sont réunis dans le studio de Cadécole à nouveau plusieurs équipes pour vous faire entendre quelques échos de leurs travaux respectifs. Alexandra Pelche et Edwige Courreau-Falquero, on vous retrouve pour le projet Collège Plus Calvados, bonjour.
Bonjour Maë.
Bonjour.
Peggy Neville, c'est toi qui représente l'équipe Veille et Analyse pour cet épisode, bonjour.
Bonjour.
Aurélie Lussault, tu représentes seule cette fois-ci l'équipe des Léa Effet, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Et Sébastien Boudin, toujours fidèle au poste du côté de Cadécole, bonjour.
Eh oui, toujours présent et bonjour Maë.
C'est le troisième épisode de la saison et on vous propose ce mois-ci de retourner en salle de perme.
Dans la chronique espace d'apprentissage.
D'écouter des ondes venues d'un collège du Mans.
Dans la chronique les ondes de l'éducation.
D'explorer la notion de forme scolaire.
Dans la chronique Eduvox.
Et enfin de découvrir quelques extraits de la table ronde de la rencontre internationale des Léa Effet de mai 2025.
Dans la chronique l'instant Léa Effet.
Alors, sans plus tarder, je me tourne vers vous, Edwige et Alexandra, vous allez nous parler de la salle de permanence, c'est bien ça ?
Eh oui, je ne sais pas si c'est ton cas, Maë, mais je parie que la plupart de nos auditeuristes ne gardent pas de très bons souvenirs de la salle de permanence.
Oh, moi j'étais une élève studieuse, hein.
Espace d'apprentissage. Si vous vous souvenez de vos années collège, la salle de permanence, c'est le lieu où on envoie les élèves en l'absence d'enseignants, d'enseignantes ou quand il y a un trou dans leur emploi du temps.
Un peu comme une salle d'attente ?
On peut dire ça comme ça, mais en théorie, les élèves ne sont pas censés attendre passivement, ils sont supposés travailler et s'avancer dans leurs devoirs.
Sauf que dans les faits, l'heure de permanence n'est pas toujours propice au travail personnel des élèves. C'est même souvent un temps subi pour eux. Ils sont fréquemment très nombreux, parfois plus de 50, et peu accompagnés dans la réalisation de leurs devoirs par des adultes. Et certains élèves sont fatigués après une journée de cours, ils ont du mal à se mettre au travail, surtout pour ceux qui ont plusieurs heures de permanence dans une même journée.
Face à cette situation insatisfaisante, des établissements tentent de repenser le fonctionnement de l'heure de permanence. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui une initiative intéressante dans un collège du Calvados qui a justement mis en place ce genre de transformation. Il s'agit du collège Louis Pergaud, à Dozulé, un collège d'environ 200 élèves, en milieu rural, à une trentaine de kilomètres de Caen.
Tout est parti, dans ce collège, d'un diagnostic de l'établissement qui montrait que beaucoup d'élèves avaient du mal à faire leurs devoirs, que ce soit chez eux ou dans l'établissement. L'équipe pédagogique s'est dit qu'il fallait repenser l'heure de permanence pour pouvoir justement mieux accompagner les élèves dans leurs devoirs.
Le premier pas a été de repenser la disposition de la salle. Jusque-là, la salle de permanence était pensée comme une salle de classe avec des tables disposées en rang. Il s'agissait donc de proposer des espaces différenciés pour des activités plus variées. Des îlots pour le travail de groupe, un coin calme consacré à la lecture, des tables avec la possibilité de s'isoler pour un travail individuel au calme. Au-delà de cette réorganisation du mobilier, l'équipe de vie scolaire et le chef d'établissement souhaitaient réduire le nombre d'élèves accueillis en salle de permanence pour que les assistants d'éducation puissent davantage s'occuper de ceux qui en ont besoin.
En parallèle de tout ça, le collège a bénéficié de l'accompagnement du projet Collège Plus Calvados, qui suit des collèges dans leur démarche de réaménagement et de transformation des espaces, par exemple les salles de permanence, mais aussi des salles de classe, des halls, etc. Et l'équipe du collège Louis Pergaud, dont nous vous parlons, a bénéficié d'ateliers de co-design pour définir les besoins de leur nouvelle salle de permanence. Et ils ont également reçu un financement pour diversifier le mobilier et un accompagnement portant sur l'évolution des pratiques professionnelles des assistants d'éducation, notamment dans le cadre de la salle de permanence.
Suite à cela, la direction et l'équipe de vie scolaire ont décidé de réduire drastiquement le nombre d'élèves accueillis en salle de permanence. Pour une raison simple, assurer un meilleur accompagnement des élèves par les assistants d'éducation. Et désormais, ce sont maximum 25 élèves qui peuvent aller en salle de permanence.
En complément de cette salle de travail, les élèves ont la possibilité de se rendre dans des salles annexes sous la surveillance indirecte des AED pendant l'heure de permanence. Donc dans ces salles, ils peuvent se consacrer à d'autres activités que le travail stricto sensu, comme la lecture, les activités manuelles et artistiques ou encore des jeux de société.
Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà de ces réaménagements d'espace, c'est aussi l'emploi du temps même des élèves qui a été repensé. Un gros travail a été fait sur les emplois du temps pour qu'il n'y ait plus qu'une seule classe à la fois à accueillir sur les heures et dans les espaces de permanence. Et dans les emplois du temps des élèves, ce sont désormais des heures de TTP, c'est-à-dire des heures de temps de travail personnel qui sont inscrites et non plus des heures de perm. Comme l'indique Sébastien Tilly, le principal, ce changement de sémantique traduit une démarche collective, réfléchie, pour revaloriser le statut de ces heures de permanence.
Et on l'a inscrit à la fois dans le projet d'établissement, on l'a inscrit dans le règlement intérieur, en expliquant dans le règlement intérieur que nous n'avions plus d'heures de permanence. Alors c'est symbolique, mais on ne voulait plus parler de permanence parce que l'histoire était trop chargée autour de ce mot, et de travailler sur des temps de travail personnel, en indiquant que les élèves avaient plusieurs possibilités, plusieurs salles en fonction de ce qu'ils voulaient réaliser, de ce qu'ils avaient à faire. Et on a construit des ébauches de règlements à ces espaces-là avec les élèves.
Un autre aspect intéressant, c'est que ce projet entraîne des changements importants pour l'équipe de vie scolaire. Madame Loinard, la CPE, explique ainsi que le travail et la posture des AED sont en pleine évolution.
Ce que ça a nécessité pour moi en tant que CPE, comme organisation, c'est plus considérer l'accueil de l'élève de façon différente, c'est faire en sorte que l'équipe d'AED conçoive la surveillance de l'heure d'études différemment, où on est plus effectivement dans de l'accueil, dans de la personnalisation, où on laisse à l'élève un choix, ce qui n'était pas le cas avant.
Avec cette nouvelle organisation, les assistants d'éducation ne sont plus uniquement dans une attitude de surveillance et de discipline pour que les élèves fassent leurs devoirs en silence. Au contraire, ils sont dans une posture d'aide, de relation, d'accompagnement. C'est ce que Charlène, qui est une des assistantes d'éducation, nous explique.
Nous, les AED, c'était quand même assez tendu quand on allait en permanence avant, parce qu'on avait 60 élèves dans une permanence organisée, en rangée, etc. Donc on arrivait un petit peu à la guerre, quoi. À la guerre de maintenant, taisez-vous, pas de bruit, pour être sûr que ça ne déborde pas, etc. On ne leur accordait pas beaucoup de temps dans l'accompagnement.
Charlène nous dit également...
Ça nous demande plus de travail, ça nous demande plus de mobilité, mais c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là. On est passé de pion à surveillant, et là, on passe de surveillant à assistant d'éducation.
À les entendre, les assistants d'éducation expliquent que cette transformation de l'heure et des espaces de permanence change vraiment la façon dont ils exercent leur métier au quotidien. Il y a plus de dialogue, de meilleures relations interpersonnelles et davantage d'accompagnement individuel des élèves. Les séquences de travail, que sont les heures de perm, sont devenues plus agréables pour les assistants d'éducation. Le climat est apaisé, nécessite moins d'actes d'autorité. Et il y a même, plus qu'avant, de collaboration entre les assistants d'éducation, car ils sont toujours en binôme, voire en trinôme, pour assurer la surveillance tournante et l'encadrement dans la salle de TTP. Au final, c'est pour eux un travail moins pénible et plus intéressant, comme le confirme Romain, un autre des assistants d'éducation.
Alors, avant, on était habitué à avoir les salles de classe qui étaient classiques, là, en randonnion. Donc ça, on a l'impression que ça demande moins d'efforts, mais finalement, c'est ce qui nous prenait plus mentalement, ça nous prenait plus d'énergie. Alors que maintenant, le fait qu'on soit un peu partout, c'est plus agréable aussi, parce qu'on est plus avec les élèves, on peut plus même juste discuter avec eux, c'est beaucoup plus simple.
Après quelques mois de mise en place de cette heure et de ces espaces de TTP, les premiers retours sont clairement positifs pour les élèves comme pour les AED. Repenser la fonction et l'organisation de l'heure de permanence a permis de mieux prendre en compte la diversité des besoins des élèves, à la fois en termes de travail personnel, mais aussi en termes de repos, de jeu, de socialisation. À tel point que certains élèves demandent désormais à rester en TTP, même après la fin des cours, alors qu'ils pourraient rentrer chez eux. Charlène nous parle de ce que cela change pour les élèves.
La salle de permanence, c'était un moment désagréable pour tout le monde, finalement. Là, on a des élèves qui sont contents de venir, qui sont engagés, beaucoup plus engagés dans leur travail, qui se responsabilisent, qui se mettent au travail très facilement.
C'est donc un début très encourageant. Le principal et l'équipe de vie scolaire expliquent que la réflexion se poursuit avec la communauté enseignante car il reste plusieurs points à approfondir dans cette expérimentation. L'articulation des heures de temps de travail personnel avec le CDI, la formation des AED, etc. Et il y a également le souhait d'aller plus loin sur l'accompagnement à l'autonomie des élèves. Notamment, il s'agit de clarifier et de mieux faire comprendre aux élèves les règles du jeu pour qu'ils puissent tous, progressivement, accéder aux espaces où ils peuvent être en autonomie.
Alors, on peut se dire que ce type de projet est facilité dans un petit établissement dont l'équipe de vie scolaire est stable. Mais pour autant, cet exemple montre que l'heure de perm peut devenir bien autre chose qu'un temps subi, voire perdu. Transformer les heures et les espaces de permanence comporte des enjeux éducatifs et pédagogiques majeurs. Renforcer l'engagement des élèves dans leur travail personnel dans et en dehors de la classe, améliorer le climat scolaire et le bien-être des élèves.
Eh bien, c'est vraiment chouette de voir que ces maudites heures de perm, souvent des heures perdues et ennuyeuses, peuvent se transformer en temps utile pour les apprentissages et le bien-être des élèves. Moi, je me rappelle que le Graal au collège, c'était d'attendre d'être en troisième pour avoir le droit d'être dans les petites salles de perm et de jouer aux cartes. Peggy, toi, t'as des souvenirs de salles de perm comme ça ?
Bon, moi, j'ai les souvenirs, mais des salles de perm comme c'est décrit au départ. Hein.
Ah ouais.
À l'ancienne.
Militaire, les rangées.
J'aurais rêvé d'avoir des salles de perm comme ça.
Oui, je pense qu'on peut faire la même chose à l'IFE. Ce serait bien hein, aussi. Hein.
Des salles de lecture, des salles de jeu, des salles d'art plastique et d'art manuel.
Moi, j'adore. Salles de sieste aussi.
Certains établissements l'ont fait, mais tous n'osent pas aller jusque-là. Il y a encore des limites à ce qu'on peut entreprendre.
Il est permis de rêver. Je vous propose maintenant de tendre l'oreille pour capter les ondes, non pas venues d'un autre monde, mais d'une radio scolaire. Sébastien Boudin, c'est l'heure de ta chronique. Qu'est-ce que tu as dans ton enregistreur ce mois-ci ?
Eh bien, Maë, j'ai des sons venus du collège Bertolo au Mans.
On écoute ça.
Les ondes de l'éducation.
La sonnerie provoque un bazar. Cris.
Hé hey.
Aïe.
Course. Etc.
Vous connaissez toutes les radios associatives ?
Ah bah oui.
Alors je vous propose d'écouter justement le collège Bertolo au Mans. Le collège héberge dans ses murs depuis 1998 une radio associative.
Cartable FM 93.3.
Delphine Duchemin, la chargée des pratiques radiophoniques et de la formation, présente la particularité de Cartable FM.
C'est une radio qui a été créée en fait par un professeur d'éducation musicale au sein du collège. Donc en fait, c'est une radio qui est implantée dans le collège, mais qui n'accueille pas que les collégiens du collège Bertolo où on est installé. Moi, je travaille beaucoup avec les écoles primaires, un peu maternelles, beaucoup avec les collèges, les lycées, jusqu'aux étudiants, donc avec l'université. Ça peut être des projets via les enseignants ou des projets plus volontaires donc, qui viennent des élèves.
La sonnerie du collège découpe les heures de cours. Les élèves courent et chahutent dans les couloirs. Ce n'est vraiment pas extraordinaire. Mais dans le collège Bertolo, on a recensé une quarantaine de nationalités et 73 langues différentes.
Bon dia. Здравствуйте.
Bravdes.
Hélène.
Merhaba.
Salam alaikum.
Buongiorno.
Samarjoba.
Bon dia.
Beauté.
Salam alaikum.
Bonjour.
L'équipe enseignante propose une séquence pédagogique autour de ces paysages linguistiques et sonores. Le projet Écoutons Bertolo fait dialoguer deux classes. Une classe de 5e avec le groupe du PE2A. C'est un dispositif d'enseignement pour les élèves allophones. Pour Lénaïque Charlot, professeur d'éducation musicale, la prise en compte de la diversité des langues peut aider à l'enseignement des langues du collège.
Oui, c'est un petit peu ça. C'est se rendre compte de toute la diversité des langues que l'on a autour de nous. Et puis, mettre aussi un peu nos élèves de 5e en situation, des élèves qui viennent d'arriver, qui sont allophones, hein, donc qui font partie de cette classe UPE2A, de renverser leur rôle. On s'aperçoit qu'ils ont découvert le fait de ne se trouver en situation de difficulté, effectivement, par rapport à cette notion de langue. Et certains ont aussi découvert cette classe du PE2A. Alors, et là, ça a permis justement un rapprochement, si on veut, de certains élèves et des élèves de 5e. Donc ça, c'est très, 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 très optimiste, en fait, pour la suite. On espère que ça va continuer, évidemment.
L'autre atout de ce projet, c'est de contribuer au mieux vivre de ce collège, d'éviter les moqueries et les discriminations, comme l'évoque Lénaïque Charlot.
Alors, il est vrai qu'on a en plus cette année mis un petit peu le projet sur ce qu'on appelle la glottophobie. Donc, on a vraiment pris ça en compte dans nos cours respectifs, dans chacune des matières, en fait. Et les élèves ont vraiment compris cette notion de glottophobie. En EMC, notamment, la professeure a beaucoup parlé de cette notion de discrimination. En fait, c'est une vraie discrimination. Les élèves ont compris. Et ça a permis aussi aux élèves du PE2A de montrer un petit peu leur mal-être, en fait.
L'équipe pédagogique, s'inspirant de l'émission de RFI Écouter le monde, a sensibilisé les oreilles des élèves au monde qui les entoure, et ainsi, ils ont réfléchi au son qui caractérise leur collège.
Par des textes aussi qui avaient été élaborés en français, on expliquait, par exemple, quand on passe dans le couloir, ce qu'on appelle le couloir des langues, c'est-à-dire toutes les classes de langues sont dans le même couloir, on entend différentes langues, donc ce que l'on ressent, ce que l'on entend au point de vue du sonore. Et donc, moi, je faisais faire des petits exercices vocaux de bruitage aussi par les élèves. Par exemple, une trousse qui tombe, alors ça va faire quel bruit? Donc, ils le faisaient par la voix, tout simplement. Et donc, on a mis des petites situations de cette façon différentes sur la cour, à la cantine, dans les couloirs, dans l'escalier, et ça a donné lieu à des différents éléments sonores que l'on a notés et fait entendre. Et on a été aussi, avec un micro, prendre quelques petits bruits de cours, de cris, parce qu'il y en a aussi dans les escaliers, etc.
En outre, ce projet a permis aux élèves de travailler ensemble et de souder un collectif. Lénaïque Charlot et ses collègues n'ont pas oublié de faire coïncider cette expérience avec les compétences attendues en cinquième.
Que ce soit en français, donc la professeure de français fait écrire pas mal de textes à l'écrit, donc là elle utilise les compétences, et c'est toujours en lien avec ce qu'elle voit ce qu'elle doit voir dans la création en fait de textes. Donc les compétences sont là. En histoire-géographie, EMC, c'est pareil, elle retrouve des compétences, elle va aller sur des sujets qu'elle doit voir de toute façon dans ces matières-là. Moi, en musique, je m'y retrouve complètement, puisque moi, j'ai mes compétences de chant, de création, voilà. En arabe, c'est pareil, elle fait de toute façon travailler les élèves. Donc, on s'y retrouve très, très bien. Les compétences, c'est vraiment pas un souci.
Ce portrait sonore du Collège Berthelot est accessible sur le site de RFI Écoutez le monde. Les 50 élèves ont investi le studio de Cartable FM avec l'aide de Delphine Duchemin et encadré par 7 professeurs. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une suite sonore, car depuis 2024, ce projet est entré dans une recherche-action d'un Léa Iffé, et il est suivi par Caroline Venaille, enseignante-chercheuse en sciences du langage.
Eh ben merci Sébastien, ça donne envie de faire de la radio hertzienne, tout ça, dis donc.
C'est vraiment passionnant tout ce qu'ils font, et si vous voulez en savoir plus, notamment sur la glottophobie ou sur la manière de faire l'appel en classe, enfin, vraiment des points qu'ils ont travaillé avec leurs élèves, vous pouvez les découvrir sur le blog collaboratif des élèves IFE. Si vous tapez « Écoutons Berthelot », vous trouverez tous leurs articles de blog. C'est vraiment passionnant.
Oui, tout à fait.
On vous mettra les liens en description de l'épisode. Nous allons passer maintenant à la chronique Eduvox, et ce mois-ci, c'est toi, Peggy Neville, qui nous a rejoint sur le plateau d'Ifequoi.
Et oui, je me lance et j'ai amené avec moi mon édu-revue, Panorama de la forme scolaire, faire l'école autrement.
Tu vas donc nous parler du concept de forme scolaire qui permet de comprendre pourquoi toutes nos classes se ressemblent.
Oui, tout à fait, Maë. On va s'interroger d'où vient ce concept, comment différentes disciplines permettent de mieux le comprendre et comment les recherches aident à éclairer les transformations actuelles de l'école primaire.
Eduvox. Peggy, pour commencer, c'est quoi exactement la forme scolaire ?
Alors la forme scolaire, c'est Guy Vincent, sociologue, qui a vraiment développé ce concept dans les années 80 pour en faire l'outil d'analyse qu'on utilise aujourd'hui, avec notamment Bernard Lahire et Daniel Thin. Ce qu'il désigne, c'est une manière d'organiser l'école. Et cette forme scolaire, elle a des traits bien particuliers, 5 en fait. Les deux premiers correspondent à ce qu'on pourrait appeler la mise à l'écart des élèves. Des temps et des espaces dédiés à l'apprentissage et séparés du monde adulte. La cour, la salle de classe. Et dans ces espaces, tout est réglé. Un emploi du temps strict, où chaque moment est encadré, rythmé, minuté, avec une occupation incessante des élèves. Le troisième trait, des règles qui s'appliquent à tous et toutes. On n'obéit pas à une personne en particulier, On obéit à un cadre qui vaut pour tous, élèves comme enseignants.
Et donc ces trois premiers traits, ils concernent surtout le cadre, l'organisation, et du côté des savoirs eux-mêmes, ça change quelque chose aussi ?
Oui, complètement. Ce cadre ne règle pas seulement les comportements. Il fixe aussi ce qu'on apprend, la manière de l'apprendre, d'écrire, de parler, de raisonner. Et le vecteur privilégié pour ça, c'est le quatrième trait, c'est l'écrit. Les supports, les traces, les exercices qui deviennent dominants. Enfin, le cinquième, c'est l'apprentissage qui est séparé de la pratique. On ne mesure pas la hauteur d'un arbre dans la cour. On calcule la hauteur d'un arbre imaginaire pour comprendre un raisonnement. Les contenus deviennent abstraits, conceptuels.
Donc la forme scolaire, ce n'est pas seulement une manière d'organiser l'école.
Exactement. Et c'est là que la sociologie est précieuse. Elle montre que la forme scolaire, ce n'est pas juste un cadre pratique. Muriel Darmon, sociologue et directrice de recherche au CNRS, l'explique très bien.
Ces critères de définition, ils présupposent un certain type d'élève, hein, de bon élève, mais aussi ils contribuent à le construire, à le fabriquer. Donc en fait, cette forme scolaire, c'est pas seulement un dispositif, c'est un mode de socialisation, un dispositif qui va construire un certain type d'individu, donc d'une certaine manière, à partir du XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui.
Or, ce que dit Muriel Darmon, c'est essentiel. La forme scolaire, elle produit un certain type d'élève. Quelqu'un qui apprend à rester assis, lever la main, respecter un cadre, mais aussi à découper le monde en disciplines, à raisonner de manière analytique, à mettre à distance l'expérience immédiate. Ce n'est pas juste une organisation pratique, c'est un mode de socialisation qui façonne les individus depuis plusieurs siècles.
Ce concept vient donc de la sociologie, mais est-ce qu'on peut l'approcher par d'autres disciplines ?
Oui, et c'est exactement ce que fait cette étude revue. On peut mobiliser plein de disciplines différentes et chacune éclaire quelque chose que les autres ne voient pas. Prenez l'histoire. Elle nous aide à comprendre comment cette forme s'est construite, brique par brique. Des écoles lassalliennes du XVIIe siècle aux bâtiments standardisés du XIXe, on voit progressivement s'imposer un même modèle. Un maître, une classe, tous au même rythme. L'histoire, c'est la discipline qui nous donne la genèse. La didactique, elle, entre dans la classe. Elle montre comment la forme scolaire structure la transmission des savoirs, le découpage en matières, en séquences, en progression. Elle donne à voir que c'est une façon très particulière d'organiser ce qu'on apprend. Et dans quel ordre ? Et si on convoque la géographie, on analyse la dimension spatiale. Pascal Clerc, géographe et chercheur à Cergy Paris Université, travaille sur la salle de classe comme objet géographique. Il montre, par exemple, que le terme même de classe concerne plusieurs dimensions à la fois.
Qu'est-ce qu'une classe ? Une classe, c'est un lieu. On parle de salle de classe, mais assez facilement, on va dire aussi la classe. C'est un groupe d'élèves, la classe de 6e, 5. C'est un enseignement. On va faire classe de français, de maths, etc. Et c'est même un temps, hein, un découpage du temps. Et tout cela va ensemble. Et c'est pour ça qu'il est très difficile, pas impossible, mais très difficile de remettre en cause le modèle classe comme lieu d'apprentissage.
Voilà, en mobilisant la géographie, on comprend que la classe, c'est pas juste un lieu. C'est un groupe, un temps, un enseignement. Tout ça s'entremêle. La géographie nous permet de voir cette imbrication entre l'espace, le groupe social et l'organisation temporelle.
L'espace n'est pas neutre et ce ne sont pas Edwige et Alexandra qui nous contrediront. Elles qui nous parlent d'espace d'apprentissage à chaque épisode justement.
Tout à fait. Au final, toutes ces disciplines convergent pour nous montrer une même idée centrale. La forme scolaire n'est pas une évidence naturelle. C'est une construction sociale et historique qui s'est imposée pour des raisons précises. La laïcisation, la massification de l'école, la volonté de former des citoyens républicains.
Les disciplines de recherche que tu nous as présentées permettent donc de comprendre comment l'école s'est construite, mais est-ce qu'elles permettent aussi d'éclairer ce qui est en train de changer aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Et c'est aussi l'intérêt de ce concept. Il permet d'analyser les tensions actuelles. L'inclusion scolaire, par exemple. La forme scolaire a été pensée pour des élèves supposés avancer ensemble, au même rythme. Mais aujourd'hui, tous les élèves sont accueillis dans leur diversité. et la recherche montre cette tension entre cadre collectif et individualisation des parcours. Le numérique aussi bouscule les frontières traditionnelles de l'école. Et je pourrais mentionner les logiques managériales, pilotage par les résultats, évaluation nationale, dont Marie Lauricella parlait dans le premier du Vox sur PISA. Là aussi, des évolutions profondes qui impactent le travail des enseignantes et des enseignants.
L'étude revue que tu as rédigée permet donc de comprendre ce concept et ses recompositions contemporaines. On peut la retrouver quelque part ?
Oui, bien sûr. Et si tout ça vous a donné envie d'aller plus loin, c'est dans l'étude revue numéro 153 sur le site de l'équipe Veille Analyse de l'IFE.
Et on vous mettra bien entendu un lien en description de ce podcast. Merci Peggy. C'est extrêmement clair et du coup, ça fait complètement le lien avec votre chronique, Edwige et Alexandra.
Oui, tout à fait. On se réfère souvent à ce concept de forme scolaire qui est très puissant pour expliquer justement comment le système éducatif fait système et composé de différentes échelles, dimensions. Et surtout, c'est un concept puissant pour réfléchir à comment on peut innover, comment on peut changer cette forme scolaire.
C'est un peu la même chose en radio, finalement, quand on change de format. Je ne sais pas si l'analogie est pertinente, mais on pourrait essayer de se mettre debout derrière les micros. Peut-être que ça changerait absolument tout.
À essayer la prochaine fois.
Je raconte des bêtises. Allez, on enchaîne. Aurélie Lusseau, aujourd'hui, tu as perdu ton acolyte de radio.
Oui, Alexandra est dans son collège. Mais nous vous avons préparé la chronique ensemble et elle est prête.
C'est l'instant Léa y fait, une chronique qui partage les moments forts de la 15e rencontre internationale du réseau des Léa y fait.
C'est bien ça. Donc la rencontre s'est déroulée en mai 2025 et portait sur les preuves dans notre contexte de recherche collaborative. Vous aviez pu entendre dans la première chronique que nous avons tendu notre micro à des enseignantes, des chercheurs et chercheuses sur ce que leur évoquait la preuve en éducation. Dans la deuxième, nous sommes revenus sur les éléments de la conférence de Thibaut Kopp qui était intitulée « Peut-on construire de la preuve en recherche collaborative ?» Discutons données probantes, recherche collaborative, leurs intérêts et leurs limites.
Et sur quoi va donc porter cette troisième chronique ?
Bien cette fois-ci, nous avons sélectionné des extraits de la table ronde qui s'est déroulée à la suite de la conférence et qui donne la parole à des membres de Léa sur la manière dont ils ont attrapé la preuve dans leur recherche collaborative. Et cette thématique a posé beaucoup de questions dans les Léa. Ça a même parfois fait débat et nous avions envie de vous le partager. Alors forcément, avec Alexandra, on a dû faire des choix et nous écouterons seulement deux équipes pour cette chronique. Mais bon,
teaser.
Vous pourrez découvrir la troisième équipe à la prochaine chronique qui portera davantage sur les réactions et critiques que la thématique de la preuve a suscité dans les collectifs Léa.
Mais attends Aurélie, on parle de la rencontre des Léa Ifé, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un Léa Ifé ?
Mais bien vu Maë. Léa Ifé, ça veut dire lieu d'éducation associé à l'Ifé. Donc ce lieu peut être une école, un collège, un lycée, un établissement du supérieur ou même un réseau d'établissements. On a eu aussi des Léa qui se sont déroulées dans des hôpitaux ou des prisons. Leur point commun, c'est que ce sont des personnes de l'éducation et de la recherche qui se posent des questions, en lien avec l'éducation, et qui ensemble essayent d'y répondre. L'objectif du Léa est à la fois de produire des connaissances scientifiques, des ressources et du développement professionnel pour toutes et tous.
Maintenant que c'est clair, on t'écoute donc sur la chronique du jour.
L'instant Léa y fait.
Pour commencer, vous allez entendre deux membres du Léa Lecture littéraire au cycle 3 de l'Académie de Nice, que l'on appelle aussi Léa Collecte. Comme son nom l'indique, le projet s'intéresse à l'enseignement de la lecture littéraire au cycle 3. Donc cycle 3, ce sont les classes de CM1, CM2, 6e. Et plus particulièrement, il propose d'évaluer dans quelle mesure le développement professionnel des professeurs engagés dans un collectif de travail favorise le développement des compétences en lecture des élèves de cycle 3. Trois écoles et un collège de Toulon sont associés à ce projet et l'étude se déroule en classe de CM2 et de 6e. Dans les extraits sélectionnés, vous allez entendre Corinne Odolo, conseillère pédagogique départementale, et Alice Ruiz, professeure de lettres au collège. Elles sont les porte-parole du Léa. Elles nous expliquent les différentes méthodes utilisées qui font preuve dans leur recherche collaborative, l'articulation entre une approche quantitative et une approche qualitative, et ce que la dimension collaborative leur apporte à cette façon de faire preuve. On vous laisse découvrir.
Au départ, les preuves ont été pensées par la recherche sur le principe d'une combinaison entre des données robustes qualitatives avec les pré-tests et les post-tests qui sont élaborés tout de même en concertation avec les enseignants, CPC, inspecteurs, qui se posent des questions sur les compétences qu'on cherche à évaluer dans les pré- et les post-tests, qui ont lieu en début et en fin de chaque année scolaire, auprès de 300 élèves à peu près, qui concernent donc les classes impliquées dans le projet, ainsi que des classes témoins. Et ensuite, on a aussi des données qui sont fondées sur des analyses de pratique, qui sont des données anthropologiques, si je ne me trompe pas.
Donc ces données qualitatives d'analyse de l'activité, nous les récoltons suite à des séances de co-teaching. Et dans ces séances de co-teaching, il y a également la présence de chercheuses. Et en fait, il n'y a pas de leadership, c'est un leadership partagé. Durant ces séances de co-teaching ou ces temps de formation, nous analysons les capsules vidéo, nous analysons le réel de l'activité, en fait, entre le réel et le prévu.
Et dans les analyses de données qualitatives, on a aussi les entretiens auprès des élèves et des enseignants qui interviennent dans le projet. Ce qu'on a remarqué, c'est que petit à petit, chacun s'est emparé à son échelle des outils de la recherche. Les enseignants se sont mis aussi à faire des captations vidéo, des captations audio, des photos et des entretiens avec leurs élèves pour savoir où est-ce qu'ils en étaient dans l'appropriation de ces outils pour vérifier et ajuster leurs enseignements. Et donc, on a pu apporter de cette façon-là de nouvelles données pour enrichir l'épreuve. On a été aussi assez surpris de voir que finalement, ce sont les élèves qui ont créé des preuves là où on ne les attendait pas, puisqu'ils se sont emparés des outils encore différemment, comme avec les traces de compréhension et d'interprétation personnelle qu'ils peuvent écrire directement sur les documents et qui, à nous, sont des traces ou des preuves ou des données, en tout cas, qui sont utilisées pour la recherche, et c'est cette circulation permanente entre les différents acteurs du projet qui donne des informations plus précises en fait sur l'efficacité du dispositif, puisque tout devient contributif à notre recherche.
Donc vous venez d'entendre un exemple de Léa qui utilise différentes méthodes de recherche, différentes approches de recueil de données et différentes méthodes d'analyse de données. On a ici des enseignantes et des élèves qui se sont appropriés les outils de la recherche. Cela soutient leur réflexivité et l'avancée de leur projet de recherche. Poursuivons maintenant avec les membres du Léa Écrire et raisonner avec les nombres, appelé aussi Léa Écrénum de l'Académie de Créteil. Les écoles impliquées dans le projet sont en réseau d'éducation prioritaire renforcé. On s'intéresse ici à l'enseignement des mathématiques dans des classes maternelles et élémentaires, et plus particulièrement à la résolution de problèmes. Cette équipe aborde d'autres questions autour de ce qui fait preuve. Dans cet extrait, vous entendrez Ingrid Poisson, conseillère pédagogique de circonscription, et Mahira Mamed, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation et de la formation. Elle nous raconte comment la question de ce qui fait preuve pour le Léa est mise en tension avec ce qui fait preuve pour l'institution et comment ces réflexions ont alimenté leur travail. Écoutons-les.
Donc, nous sommes appuyés sur les évaluations nationales, mais il faut savoir que ces évaluations nationales ne cherchent pas à évoluer forcément la même chose que ce que nous, on cherche dans Léa. Les évaluations nationales, on a des compétences à l'instant T, alors que nous, on cherche aussi à évaluer les progrès des élèves. Nos enseignantes ont été fort déçues de voir que ce qu'elles avaient constaté comme progrès chez leurs élèves et les compétences que les élèves avaient acquises en mathématiques n'étaient pas forcément visibles dans les évaluations nationales. Donc ça a été assez compliqué pour elles de vivre ça.
Et du coup, ça a été source d'une énorme démobilisation des enseignantes, des motivations en disant « mais tout ce travail qu'on fait, toute l'énergie qu'on consacre n'est pas visible ». Donc ce décalage entre ce qui est constaté par les enseignantes et les résultats aux évaluations nationales nous a amené à analyser les évaluations et à essayer de comprendre d'où venait ce décalage qui n'était pas lié aux compétences mathématiques de nos élèves, mais à tout ce qui était de l'ordre de l'acculturation à l'écrit, qui empêchait les élèves de réussir à des épreuves qui étaient censées mesurer les compétences qu'ils avaient déjà. D'où le fait de conforter ce qui était déjà à l'œuvre dans le Léa et qu'on a renforcé, c'est-à-dire toute cette dimension sémiotique, ce travail d'acculturation à la dimension sémiotique dans la résolution de problèmes, dès l'école maternelle, qui n'était pas présente auparavant.
En fait, on a travaillé à côté les compétences nécessaires invisibles sur justement l'écrit et les procédures pour réussir ces évaluations, sans pour autant bachoter, on est bien d'accord. Mais donc, depuis 2023, les effets ont été lisibles dans les évaluations nationales et on a réduit fortement les inégalités entre notre REP+ et les zones banales. Et nous avons même, dans certains items, plus d'élèves à besoin. Voilà.
J'ajoute que cette recherche s'inscrit dans un temps long. En fait, cette équipe travaille ensemble déjà depuis 2019, voire un peu même avant. Dans cet extrait, on voit bien la difficulté d'articuler les outils de l'évaluation avec les compétences pour répondre aux questions et les compétences mathématiques évaluées. Ici, les résultats aux tests nationaux standardisés sont passés au crible du regard réflexif des membres du Léa. Cela leur a permis de prendre du recul et de mieux rendre visibles les progrès de leurs élèves. On peut mettre en parallèle ces réflexions avec les mots du philosophe Biesta cité par Thibaut Kopp. À force de mesurer, on va donner uniquement de l'importance à la mesure et oublier de donner de l'importance à ce qui est sous-jacent. On va rester avec les mots de Thibaut Kopp pour la conclusion, comme lors de la table ronde. Ce que l'on peut retenir de ces deux exemples, c'est l'importance du pluralisme des méthodes de recherche pour avoir un regard plus fin et pour produire des connaissances qui sont rigoureuses, valides, fiables, pertinentes. L'importance du jugement professionnel tout en prenant en compte les attentes institutionnelles. Et c'est vraiment ce qu'on a pu entendre plus globalement sur cette journée de rencontre des Léas. Et si vous souhaitez écouter ou lire davantage de choses sur la manière d'aborder la notion de preuve dans les Léas, vous retrouverez plein d'éléments sur la page de la manifestation. Il y a des vidéos, des articles de blog, des supports de communication des Léas.
Et c'est bientôt votre 16e rencontre internationale en mai. Quelle sera la thématique ?
Oui, c'est vrai. Elle se déroulera le 27 mai prochain et portera sur la thématique « Les Léas IFE, un espace de démocratie pour la démocratie ». Si le programme vous tente, certains temps seront retransmis en direct puis seront déposés en ligne sur notre site, à la page des manifestations.
Eh bien, c'est la preuve que ces rencontres sont passionnantes, n'est-ce pas ? Merci beaucoup.
Ça promet.
Merci beaucoup Aurélie et merci aussi Alexandra Gualard qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a contribué à l'écriture de cette chronique.
Absolument. Il n'y a rien à dire sur les évaluations nationales, là ? Ça ne vous fait pas réagir ?
Non.
C'est souvent le problème des compétences transversales, en fait. Sur la lecture de consignes.
Et là, ça va au-delà. Quand tu lis leurs articles, ça va même au-delà de la lecture de consignes. Ouais. C'est les lieux où tu réponds, comment tu réponds, qu'est-ce que tu comprends d'une frise, d'un numéro aligné, est-ce que c'est une frise numérique, bon, bref.
Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'en transformant et en se réappropriant ces évaluations nationales très standardisées, ces enseignants, ces acteurs modifient la forme scolaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les évaluations nationales, c'est très standardisé, c'est vraiment la forme scolaire traditionnelle. Et là, ils essayent d'en faire autre chose au profit des élèves et pour valoriser les apprentissages.
C'est la preuve que tout est lié finalement entre les différentes chroniques d'IFE quoi. C'est la fin de cet épisode d'IFE quoi, mais on se retrouve en juin pour le dernier épisode de la saison. Nous nous réunirons de nouveau avec l'équipe Veille et Analyse, Cadécole, Collège Plus et l'équipe des Léa IFE qui vous feront découvrir des petits échantillons radiophoniques de leurs travaux, des décryptages, des recherches en éducation, des échos, des rencontres internationales des Léa IFE, des projets pédagogiques autour de la radio et des espaces d'apprentissage. IFE quoi ? C'est le magazine qui vous fait feuilleter en son ce qu'on fabrique à l'Institut français de l'éducation. Vous pouvez en attendant retrouver l'intégralité des épisodes d'IFE quoi et des podcasts de Cadécole sur le site ife.ens-lyon.fr/cadécole et sur toutes les plateformes de podcasts. Merci à Adrien Reynaud en régie et Laurent Gaillard au mixage. Ça y est. Troisième épisode sur quatre.
Ouais, incroyable celle-ci, là, que c'est autant de liens entre les...
On se professionnalise.
Ouais, non, c'était fait exprès qu'il y ait des liens entre les chroniques ? Ou c'est le hasard ?
Tout est fait exprès.
Ah, c'est tout est fait exprès.